On va aller ensemble dans la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos Bibles dans Jean 17. Le passage va être affiché à l'avant si vous n'avez pas une Bible avec vous, mais on vous encourage toujours à maîtriser votre texte vous-même dans vos mains puis à mémoriser, à étudier la parole. C'est un long passage ce matin qu'on va lire. On va lire 26 versets. Alors, je vous demande vraiment d'être bien attentif, d'être là parce qu'on va faire référence à ce passage-là quelques reprises dans le message. On va se courber ensemble dans un mot de prière. Mais Père éternel, on est assemblés ce matin sous ton regard, Seigneur, dans ta présence. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit habite dans nos cœurs et au milieu de cette sainte assemblée. Sainte, Seigneur, parce que tu nous as appelés. Tu nous as appelés à toi, tu nous as mis à part pour porter ton nom, porter le nom de Jésus-Christ et faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Père, on veut te demander de venir nous rencontrer ce matin. Viens, prends cette parole qui va être lue, Seigneur, et rends-la vivante dans nos cœurs, Seigneur. Viens qu'elle parle à nos cœurs, qu'elle vienne, Seigneur, transformer notre manière de voir la vie, de te voir, de nous voir nous-mêmes, qu'elle vienne remplir nos cœurs d'amour, de désir, de sainteté pour ta gloire et par amour pour les gens autour de nous, Seigneur. Viens ce matin, parle-nous, on est attentif, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré du livre de Jean au chapitre 17, édition Louis II. Donc, Jean au chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux.
Merci Mathieu. Si je vous dis Emmanuel, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel, c'est ça? Mais c'est un petit peu ça qu'on a vu à travers la série. On a commencé cette série-là en parlant du Dieu très saint. Et si vous rappelez le terme que je vous ai encouragé à retenir pour penser à la sainteté de Dieu, c'est incomparable. Dieu est dans une classe à part. Dieu est hors de, à côté de l'univers, du temps, de l'espace. Dieu est incomparable. Et ce qu'on a vu dans le deuxième message, c'est que ce Dieu incomparable, lorsqu'on parle de sa sainteté, on ne parle pas seulement de sa pureté, il est autre que nous. Ce Dieu-là a désiré venir parmi les hommes. C'est impossible à l'homme de véritablement connaître Dieu parce que Dieu est infini et nous sommes des êtres limités, finis. Dieu est trop grand pour que notre intelligence puisse le saisir, l'appréhender vraiment, saisir qui est Dieu. Il faut que Dieu prenne l'initiative de venir vers nous. Et on a vu dans le deuxième message que ce Dieu incomparable désirait venir vers les hommes. Et il est venu et il s'est formé un peuple. Et c'est comme ça qu'il fonctionne depuis le début de l'humanité. Il se forme un peuple, le met à part, le sanctifie, afin de pouvoir habiter au milieu de ce peuple-là. Ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, c'est quel est ce processus par lequel, justement, chacun d'entre vous, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu a fait pour faire de vous ce peuple nouveau? Tout ce qu'on appelle dans le cheminement, dans la marche chrétienne, la sanctification. On a vu ensemble qu'on a été justifié, déclaré saint par Dieu. C'est vraiment un acte de Dieu. Nous, on a juste à répondre par la foi dans le sacrifice de Jésus. Et alors, je suis déclaré juste, je suis déclaré saint. Mais cette sanctification-là, c'est un processus aussi. C'est un processus, c'est une œuvre de collaboration entre Dieu et moi, où j'avance avec lui dans cette sanctification, où progressivement, je suis aussi, dans ma vie de tous les jours, de plus en plus saint. Et ce matin, on veut terminer la série. En terminant ce mouvement-là, voyez-vous, le Dieu très saint, incomparable, est venu parmi les hommes. Il s'est formé un peuple, pas afin de le ramener vers lui, pas afin de l'isoler du monde, pas afin de le retirer dans un petit monastère où il va être en sécurité dans un monde trop corrompu pour lui. Non, à notre tour, Dieu, lorsqu'il sauve, Dieu, lorsqu'il forme un peuple, il veut que ce peuple-là soit au milieu du monde. Et si vous avez été attentif à la lecture que Matthieu vient de nous faire, c'est exactement la prière de Jésus. On appelle ça la prière sacerdotale de Jésus au moment de son départ. Il prie pour ses disciples et il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde. Non, je les envoie dans le monde, mais je te demande de les préserver. Et ce matin, ce qu'on veut voir ensemble, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir été choisi par Dieu, être ce peuple-là, saint, mis à part et vivre au milieu du monde. Quel est cet appel-là et comment est-ce qu'on vit ça? Des questions comme celle-ci. Comment demeurer saint dans un monde qui ne croit plus dans la sainteté? D'accord, on vit en Occident, la notion de sainteté, c'est profondément relatif, cette patente-là. Chacun doit déterminer ce qui est bien puis ce qui est mal. On se donne des gros consensus de société pour dire, ben là, écoute, s'il y a du monde qui vandalise des maisons, c'est dérangeant pour beaucoup de monde, c'est mal. C'est bon? Fait qu'on ne fait pas ça, ça va? Donc, il y a des espèces de gros consensus général, mais en règle générale, en même temps, chacun détermine ce qui est bien et ce qui est mal comme il le veut. Alors, comment on fait pour demeurer dans la sainteté lorsqu'on dit non, mais la parole de Dieu nous dit c'est quoi qui est saint et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment rester saint d'esprit, garder un bon jugement entre ce qui est bien et ce qui est mal, un petit peu dans le même sens, mais quand la société te dit « tant que tu ne forces pas quelqu'un à faire quelque chose contre son gré, tout est permis ». Oh, mais comment tu fais pour avoir du jugement là-dedans puis discerner s'il y a vraiment quelque chose de bien puis de mal lorsqu'on dit, regarde, c'est juste une question de est-ce qu'ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, ça finit là. Comment vivre dans un monde, dans le monde, tout en étant un témoignage solide sans s'isoler du monde? Parce que celle-là aussi, elle est simple et facile. Tout simplement s'isoler complètement du monde pour dire, ah, moi maintenant, je suis sans. Je peux pas t'approcher, je ne peux pas te toucher, tu pourrais me corrompre. Comment on fait pour vivre au milieu du monde comme ça? Alors ce matin, on va voir ensemble que le Dieu très saint nous envoie pour être dans le monde, différent du monde, en d'autres mots, saint. Le Dieu très saint nous envoie pour être dans le monde et différent du monde, en d'autres mots, et nous appelle à être saint. Ce matin, je voudrais vous demander de retenir trois mots, d'accord? Vous retenez trois mots, vous retenez tout le message de ce matin, vous méditez là-dessus cette semaine. Premier mot, envoyer. Envoyer, c'est le premier mot à retenir. En commençant ce matin, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Parce que je vous connais quand même un petit peu. Puis j'ai décidé enfin d'être franc avec vous. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un de très franc. Puis je dois vous le dire bien honnêtement. Vous n'êtes vraiment pas du monde. Vous n'êtes vraiment pas du monde. Vous n'êtes pas facile à vivre, vous n'êtes pas drôle, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes vraiment pas du monde. Et ça, ça doit rentrer dans nos têtes. On est envoyé dans le monde. On est envoyé dans le monde. Et ça doit changer ma manière de voir les choses. Dans Jean 17, verset 18, Jésus dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et on oublie ça. On oublie qu'on a été envoyé. Où que vous soyez, tu n'as pas besoin de partir très loin. Tu es dans ta famille, il n'y a comme rien qui change, mais à un certain moment donné, tu fais connaissance avec une personne qui vient complètement changer ta vie, Jésus-Christ. Tu lis les Écritures, tu parles avec des chrétiens, puis ouf, il y a une révolution profonde qui se passe dans ton cœur, dans ta pensée. Tu es quelqu'un de nouveau parce que tu vois les choses différemment. Je veux dire, ton agenda dans la semaine, à part peut-être aller à l'église le dimanche, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Mais déjà, tu es envoyé. Pas parti en mission, là. Des fois, on devient chrétien et on dit, « Ah, un jour, j'espère que Dieu va m'envoyer en mission! » De quoi tu parles? T'es devenu chrétien? T'es en mission? Tu es envoyé. Le champ missionnaire que Dieu t'a donné, c'est ta famille, c'est ton travail, c'est ton quartier. Tu es un missionnaire. Parce qu'avant ça, à quelque part, tu disais, bien, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. C'est moi le propriétaire de ma vie, c'est moi le capitaine de mon navire. Et souvent, dans les derniers temps, avant de donner sa vie à Christ, on réalise que on ne contrôle pas grand-chose finalement. Puis on dit, bon, c'est correct, prends le volant, c'est beau. J'arrête, je pense que ça va être plus simple comme ça, puis ça va être plus sain comme ça. Puis on donne le volant au Seigneur. Mais à partir de ce moment-là, je suis envoyé. Je suis envoyé. Et donc là où vous êtes, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes envoyé. Pas besoin de faire des bagages, pas besoin de partir en mission à l'étranger. Vous êtes envoyé. Au travail, vous êtes envoyé. À la maison, vous êtes envoyé. Dans le quartier, vous êtes envoyé. Dans votre famille, vous êtes envoyé. Et lorsque je perds ça de vue, j'ai l'impression que c'est une question de Yannick, tu sais. C'est Yannick qui est en jeu. Yannick n'est pas en jeu là-dedans, pantoute. C'est le nom de Christ qui est en jeu. Ah, oh, mais on s'en prend à Yannick. On n'est rien à cirer, moi, de ça. On s'en prend au nom de Christ. Oui, mais là, on m'a pilé sur le gros orteil. Oui, mais je vais réagir comme un envoyé. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ que je suis en train de porter. Alors, je ne connais pas ton contexte, je ne connais pas ta réalité. Je ne sais pas si tu es bien causé au milieu d'une gang de chrétiens puis vous chantez Kumbaya Seigneur tous les matins en vous levant. Ou si dans la réalité, tu es dans le vrai monde. Bien, dans le vrai monde, toi, tu n'es pas du monde. Parce que tu es envoyé. Tu es envoyé par Dieu pour être un témoignage à la gloire de Dieu. Rappelle-toi toujours que tu n'es pas du monde. Dans Matthieu 5, 13 à 16, on lit, et c'est Jésus qui parle à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, perd la notion, le sens de son existence, oublie qu'il est là pour donner de la saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Vous êtes envoyés dans cette maison. Et c'est facile d'oublier ça. Ce matin, on répond à la question « Comment être un peuple saint dans un monde qui ne connaît pas nécessairement le Seigneur? » La première chose à faire, c'est de te rappeler qui tu es. C'est comme ça qu'on marche dans la sainteté. C'est en se rappelant qu'on est un émissaire, on est envoyé. Et on porte un message, on porte un nom. Jésus continue en disant que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que ce n'est pas ton nom que tu portes avec les œuvres que tu fais ou que tu ne fais pas. Tes réactions, tes attitudes, tes comportements, tes pensées, tes décisions, ce n'est pas ton nom que tu portes. C'est celui de ton Père qui est dans les cieux. Et les gens te regardent, puis ils disent OK. Ou bien ils disent, qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? C'est quoi cette fille-là qui réagit avec générosité, avec grâce, qui est là, puis qui revient pour régler les conflits, qui est la première à demander pardon lorsqu'elle voit qu'elle a une mauvaise attitude, qui veut partager ses biens, qui vit pour d'autres que pour elle-même? C'est quoi? Notre vie est censée être une intrigue, amen! Ta vie est censée être une intrigue! Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui le connaissent un peu doivent dire, « Ah, je le savais. Je le savais. Je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose en toi que tu ne m'avais pas dit. » Ou là, je comprends, ça fait du sens tout ça. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et donc, à quelque part, on est appelé à être super bien avec les gens, prêt à aller partout, à être invité, à faire comme Jésus qui se trouvait dans des situations des fois assez, en anglais on dit « awkward », assez bizarre. Mais en même temps, mal à l'aise, mais bien parce que j'aime les gens, mais je suis différent. Je suis toujours différent. Toujours différent. Toujours dans Matthieu, Jésus dit au chapitre 5, verset 43, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est la raison qui est importante. Pas parce que tu vas être mieux dans ta peau, tu vas être plus relax, ça va être moins lourd à porter. Pardonne, tu sais, laisse aller. Laisse aller les conflits, ça va te gruger par en dedans. Même les païens peuvent réfléchir comme ça. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent réfléchir comme ça. Écoutez, vous, c'est ça votre philosophie. Allez chez Renaud Bré. Il y en a plein de livres qui vont vous dire ça. C'est pas pour ça que je fais ça. Ça, c'est juste un sous-produit, un petit bonus sur le côté. Pas ça que le Seigneur me dit ici. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » J'ai quelque chose à vous apprendre ce matin au cas où vous ne l'auriez pas réalisé. Quand Dieu a décidé de nous aimer, d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour nos péchés, afin de nous pardonner, c'était pas pour être plus zen qu'il a fait ça. C'était pas pour se donner bonne conscience. Il avait bonne conscience en sauvant personne. Il administrait la justice. Mais c'est par amour qu'il l'a fait. C'est par amour qu'il l'a fait. Et lorsqu'un chrétien décide d'aimer ses ennemis, lorsqu'un chrétien décide de bénir, de faire du bien à des gens qui le méprisent au travail, qui n'ont aucun respect pour lui, lorsqu'un chrétien décide de faire autrement, il ne le fait pas pour son nom, pour garder la tête haute, être digne ou être zen puis en paix avec l'univers. Il le fait parce qu'il a été envoyé, parce qu'il porte le nom de quelqu'un qui est plus grand, qui l'a aimé. Il porte le nom de son Père. Vive la différence que l'Évangile produit en nous et va produire autour de nous par cette lumière qu'on est appelé à être. Tu veux savoir comment marcher dans la sainteté pour être comme Dieu saint? Garde à l'esprit que tu as été envoyé et tu portes le nom de ton Père céleste. Tes réactions, tes attitudes sont toujours le gage, parlent toujours de lui plus qu'elle ne parle de toi-même, parce que tu portes le nom de chrétien. Et à partir du moment où les gens savent que tu es chrétien, ce n'est pas juste toi qu'ils sont en train d'évaluer, c'est la foi chrétienne. C'est le nom de Jésus-Christ qu'ils sont en train d'évaluer. Puis là, sortez-moi pas cette espèce de niaiserie-là. Ah, c'est pour ça que moi, je dis à personne que je suis chrétien. Ah oui, c'est ça. Garde ton secret dans tes poches. Laisse-les toutes être données. Elle est forte, celle-là. Donc, brillez. Brillez tout simplement. Brillez. Laissez Dieu vous transformer, puis aimez. Soyez différents. Gardez à l'esprit que vous êtes envoyé. Demain, tu t'en vas au travail, tu es envoyé. Tout à l'heure, tu vas manger avec des gens, tu es envoyé. Tu vas côtoyer des voisins, tu es envoyé. Tu es envoyé par Dieu pour être une lumière dans ce monde. Premier mot, envoyé. Deuxième mot à retenir, sanctifié. Sanctifié. Alors, on a vu déjà qu'on est rendu saint par la foi en Jésus-Christ. C'est vraiment par la mort de Christ sur la croix que le pardon de mes péchés m'est accordé et donc que je suis déclaré juste, déclaré saint devant Dieu. Mais en même temps, ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que une fois que j'ai été sanctifié, ça veut dire aussi que j'ai été mis à part et je dois collaborer avec Dieu dans ma sanctification. Et ce matin, ce que je veux faire, c'est très brièvement regarder avec vous comment est-ce que ça se fait pratiquement, ça. Comment est-ce que je le fais de manière pratique et concrète? Tout à l'heure, on a lu dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Plusieurs d'entre nous, on a pris une décision pour Jésus-Christ. On a cru que c'est Jésus-Christ qui sauvait. C'était sa mort sur la croix qui nous amenait à être pardonnés de nos péchés. Et on a passé on a franchi le passage difficile de dire, un peu comme je disais tout à l'heure, « Tiens, je te donne les rênes, je te donne le volant de ma vie, c'est toi qui dirige, m'appuie sur ta grâce, c'est beau. » Ce virage-là est fait. Puis pourtant, au quotidien, on dirait que, à part le dimanche matin, quand Yannick m'envoie un bon coup de pied, on dirait que j'ai pas de motivation pour la sainteté, c'est pas là. Si tu n'as jamais aimé la lecture, si tu n'as jamais aimé les livres, tu peux continuer à tous les détester, à part la lettre d'amour que Dieu t'a écrite, la Bible. Si tu n'es pas un liseux, si tu n'es pas un intello, j'en ai rien à cirer. Si tu es un chrétien, il y a une parole sainte qui est descendue du ciel par la bouche des prophètes, qui t'a été donnée pour te transformer. Et donc, tu dois être habité par la parole de Dieu. Essaie pas de marcher dans la sainteté, aiguiser ton jugement, ton discernement, trouver de la motivation dans ton cœur pour marcher dans la sainteté en rampant ici le dimanche matin, en venant chercher ta petite shot de boost, de motivation, puis ça finit là. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne pas comme ça. Si vous y arrivez, vous êtes vraiment fort. Moi, c'est zéro. C'est peut-être parce que c'est moi qui prêche, là. J'en écoute d'autres. J'ai besoin chaque matin de ramper, c'est vrai, jusqu'à ma machine à espresso, les deux yeux dans la graisse de bin, puis après ça, de me mettre de l'eau dans le visage. Puis il est 5 heures, hein, fait que je me coule un espresso, ah, puis je m'en coule un deuxième en fin de compte, puis je me rends dans le salon, puis je m'installe, puis étant donné que le cerveau ne fonctionne pas encore, écoutez, je vis en 2014, je me mets ça dans les oreilles. Excuse-moi, Seigneur, je m'étais endormi. Puis là, je continue! J'écoute la parole de Dieu. J'ai besoin que la parole de Dieu m'habite quotidiennement. J'ai besoin de méditer sur des passages. La semaine dernière, j'écoutais une biographie sur Dietrich Bonhoeffer. Je vous ai parlé de lui à quelques reprises. Puis Dietrich Bonhoeffer avait cette habitude, en plus de prendre du temps tous les jours, au début de la semaine, j'ai trouvé ça génial. Un petit truc pour ceux qui ne sont pas des bouquineux, d'accord? Au début de la semaine, il prenait un verset, un seul verset. Bon, lui, c'était un vrai, OK? C'était un pur et dur. Mais il prenait un verset, puis chaque jour, il passait 30 minutes. Puis tous les gens qui formaient comme disciples devaient faire le même exercice. 30 minutes avec ce verset-là. Pas de commentaires bibliques, grec, hébreu, langue originale. Non, non. Bon, eux autres, c'est l'allemand. En allemand, ça finit là. Tu as juste ce passage-là. Tu médites le même passage 30 minutes pendant 7 jours. La parole de Dieu t'habite à la fin de ça, je peux te le dire. Parce que tu as médité dans tous les sens, ce que ça veut dire, ce que ça implique, là où tu as manqué, là où ça doit te transformer. Alors, si vous n'êtes pas des rats de bibliothèque, vous dites, Yannick, come on, man. Je n'ai pas encore lu un roman dans ma vie. Tu veux que je lise la Bible au complet? Certain, puis je ne vais pas te lâcher, tu vas y arriver. On va commencer avec un verset. C'est bon? Un verset, on est tous capables de le faire. Il y en a un petit cours dans la Bible, Jésus pleura. Jésus pleura. Une semaine, Jésus pleura. Il y a beaucoup à comprendre dans Jésus pleura. Beaucoup de choses à méditer, je vous l'assure. énormément. Jésus pleura cette semaine. Tu peux partir avec ça, c'est bon. Prends un petit 5 minutes à tous les jours. Médite là-dessus. Jésus pleura. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Laisse la parole de Dieu t'habiter afin que tu sois sanctifié. C'est la prière de Jésus. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole. Le moyen que Christ a pris de demander à son Père de nous sanctifier par sa parole, si je ne m'expose pas à la parole de Dieu, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ça va faire 10 ans que vous êtes chrétien. Vous allez être encore un bébé dans la foi. Le petit lait. Il ne faut pas aller trop loin. C'est difficile à digérer. Je comprends. Repentez-vous, allez-y, attaquez ça. Jésus pleura cette semaine, c'est bon? La semaine prochaine, on y va avec 3 mots. Ah, je suis en forme un matin. Deuxièmement, dans cette idée-là de sanctification, examine-toi, repens-toi, fais les choix qui s'imposent. Fais les choix qui s'imposent. Dans 1 Jean 3, et je veux juste souligner quelque chose par rapport à ça avant de lire le passage, 1 Jean 3, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, on arrive vers la fin. On arrive aussi pas mal tard dans le temps, d'accord? Alors, Jean, lorsqu'il écrit sa lettre de 1 Jean, ne l'écrit pas simplement à des jeunes chrétiens. Il l'écrit aussi à des chrétiens qui ont plusieurs années de vie chrétienne. Écoutez bien ce qu'il dit. « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et écoutez ceci, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Se purifie comme lui-même est pur. Et donc cette idée de sanctification, sanctifie-toi, prends la parole, laisse-la rentrer dans ta vie, et lorsqu'elle t'interpelle, repens-toi. Repens-toi, prends des décisions éclairées par cette méditation, cette prière dans la parole de Dieu. Prends des décisions fermes de te purifier, de purifier ta vie. Pas comme si tu pouvais te purifier pour le salut. Il y a seulement Christ qui le fait par son sacrifice. Mais celui qui a été purifié se purifie lui-même dans sa vie au quotidien. Il renonce à certaines choses. Alors ce matin, on répond à la question comment marcher dans la sainteté, dans un monde qui ne croit plus dans la sainteté, je me laisse remplir de la parole de Dieu et la parole de Dieu va aiguiser votre discernement d'elle-même. Vous comprenez, je n'ai pas besoin ce matin de vous faire une liste des 43 000 choses qu'un bon petit chrétien fait puis des 152 000 choses qu'un bon petit chrétien ne fait pas. Je n'ai pas besoin de faire ça. Si vous êtes chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez des enseignants qui vous enseignent régulièrement et vous avez surtout la parole de Dieu. Lisez-la, Dieu va vous parler, il va aiguiser votre jugement, votre discernement. Et lorsqu'il le fait, c'est l'Esprit Saint qui vous parle. Répondez à l'œuvre de l'Esprit dans votre cœur. Prenez des décisions. Prenez des décisions puis agissez par la foi sur la base de ces décisions-là. Alors, je vous donne une illustration pratique. Je l'ai donnée à quelqu'un cette semaine, ça m'a rappelé ça puis j'ai le goût de vous le partager. Esther et moi, on vient d'un arrière-plan sur le plan familial qui n'était pas parfait, d'accord? Nos deux mamans marchaient avec le Seigneur, c'est extraordinaire, mais disons que tout le modèle n'était pas là parce que c'était des foyers brisés, d'accord? Et donc, dans ma culture à moi, un couple, ça pouvait lever le ton pas mal fort, d'accord? Dans une famille, je veux dire, on pouvait finir ça dans la rue. Ça va, avec mon frère, toutes les deux à s'engueuler comme des insensés devant tout le voisinage. C'est notre histoire, d'accord? Vous pourrez en parler à Hugo quand vous le verrez. Esther et moi, on se prépare à se marier. Donc là, ça fait plus de 22 ans. On prend une décision ensemble. On prend une décision. Parce qu'on lit la parole de Dieu, puis on dit non, ça ne marche pas ça. Nous, on a été consacrés à Dieu. Notre foyer va être consacré à Dieu. Notre maison va être consacrée à Dieu. Et Dieu sait qu'on n'a pas été parfait, qu'on ne l'est toujours pas. Mais on a pris une décision. On a dit dans notre foyer, on ne va pas crier. On ne lèvera pas le ton. On ne se traitera pas de nom. Parce que pour nous, un peuple qui est consacré à Dieu ne fait pas ça dans son foyer. Et par la grâce de Dieu, parce que la parole de Dieu nous avait parlé, on avait pris cette décision-là, ce qui est totalement contre ma nature. Mon vieil homme en moi, c'est un colérique, vous comprenez? Devoir réparer des murs ou trouver des solutions pour cacher des trous, je connais ça, là. Ça va? Mais par la grâce de Dieu, Parce que la parole de Dieu nous avait parlé, on avait pris cette décision-là. Puis on s'en est tiré pas mal bien, pas mal bien. Et donc, on n'a pas transmis cet héritage-là à nos enfants d'être dans une maison où ça s'engueule comme du poisson pourri puis ça se crie par la tête des bêtises. Parce que la parole de Dieu nous avait parlé et on a consacré notre foyer. Alors, la parole de Dieu va vous parler si vous vous laissez habiter par la parole de Dieu. Laissez-lui vous parler. Repentez-vous. Dites, Seigneur, je renonce à ça, je te demande pardon. Je veux changer, je prends une décision et par la foi, je décide de marcher, de vivre, de parler, d'agir autrement, différemment. Et c'est un acte de foi. Vous allez probablement avoir à vous repentir encore, mais vous seriez surpris de voir le nombre de choses pour lesquelles vous n'aurez pas à vous repentir un million de fois. Il y a des domaines dans nos vies qui sont plus difficiles à transformer et il y en a d'autres qui... Éclairé par la parole de Dieu, on peut placer bien des choses avec des bonnes décisions devant le Seigneur. On peut vraiment bâtir un foyer chrétien, bâtir un témoignage chrétien si on est seul. On peut vraiment faire une grosse différence. Alors, sanctifier, c'est laisse la parole te transformer. Ton discernement va être aiguisé par la parole de Dieu et agis sur la base de ce qu'elle te dit. C'est simple comme ça, je n'ai pas à vous donner de liste ce matin. Envoyer. Sanctifier, motiver. Et c'est probablement la partie la plus importante de tout le message ce matin, d'accord? Parce que dès qu'on aborde toute la question de la sainteté, il y a beaucoup de pièges qui viennent avec ça. Il y a toutes sortes de dangers. Quand on commence à parler de sainteté, c'est quoi la motivation? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Comment on va y arriver? Je vais le dire comme ça, d'accord? Notre motivation pour la sainteté ne doit jamais, jamais être la sainteté. Notre motivation pour la sainteté ne doit jamais être la sainteté. La sainteté n'est pas une fin en soi. Notre motivation pour la sainteté doit toujours être l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour mon prochain. C'est super important cet élément-là. Chacun d'entre nous, si vous connaissez Jésus-Christ, il y a des domaines dans votre vie où à un moment donné, Dieu vous a parlé à travers sa parole puis vous avez dit, « OK, là, il faut que je sois saint! » Et des fois, les réactions, les attitudes, les choses qu'on fait ne sont pas motivées par l'amour pour Dieu et pour le prochain. Et on fait du mal et on juge, on condamne les gens autour de nous. Alors la question à laquelle on veut répondre ce matin, c'est comment, une fois que je réalise que je sers un Dieu saint, qu'il a fait de nous un peuple saint, sanctifié, mis à part, comment est-ce qu'on fait pour marcher dans la sainteté dans un monde qui ne connaît plus ça, qui ne reconnaît plus la sainteté? C'est en cherchant toujours à être motivé par l'amour que je vais bien le faire. Je reviens sur le passage qu'on a lu tout à l'heure. Dans 1 Jean 3. 1 Jean 3, les versets 1 et 2. L'apôtre Jean ne s'adresse pas à des jeunes chrétiens, puis il dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez-vous, Jean commence en disant « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Constamment, les apôtres, à travers tout le Nouveau Testament, et si on faisait une étude dans l'Ancien Testament, vous verriez que c'est la même chose aussi. La motivation pour inviter Israël à marcher dans la sainteté, c'est l'amour de Dieu pour Israël. Ensuite, il va dire « Vous serez saints car je suis saint. » Mais la motivation, ce n'est pas la sainteté en soi, c'est l'amour de Dieu pour Israël. Et donc, les apôtres, constamment, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous rappellent. Ils rappellent aux chrétiens qu'on a été aimés de Dieu. Si tu essaies dans ta vie de faire du ménage, dans des combats avec des péchés, en fixant tes regards constamment sur ce qui est mal que tu veux abandonner. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va te bouffer par en dedans, ça va éteindre toute flamme en toi, ça va devenir extrêmement lourd à porter. Lorsqu'on prêche dans cette église d'être une église centrée sur l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que c'est en fixant les regards sur l'évangile de Jésus-Christ, le sacrifice de Christ à la croix, qu'on ranime constamment cette flamme de notre amour pour Dieu. Et c'est lorsque cette flamme-là se ranime, mon amour pour Dieu, que mon zèle renaît pour faire les bons choix parce que j'aime Dieu, parce qu'il m'a aimé le premier. Mais voyez-vous, c'est la même chose aussi dans mon rapport, dans ma relation avec mon prochain. Si je m'en vais vers lui et je veux marcher dans la sainteté au milieu d'un monde qui n'est pas nécessairement saint et que j'oublie que je veux le faire par amour pour lui, je vais avoir toutes sortes de jugements, toutes sortes de mépris, toutes sortes d'orgueil qui va s'élever dans mon cœur. Parce que j'ai oublié d'où je venais et j'ai oublié pourquoi je vis. Je vis pour Dieu et pour aimer les gens et leur faire connaître Dieu. Et donc, lorsque je suis dans ma famille, lorsque je suis avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce que Jean me rappelle ici? Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il n'a pas connu l'amour de Dieu. Toute autre motivation pour marcher dans la sainteté personnellement et en public, dans ma relation avec les gens dans le monde, autre que l'amour pour Dieu et l'amour pour mon prochain, m'entraîne dans toutes sortes de pièges. Et donc, tout ça devient une espèce de test que je peux utiliser régulièrement pour moi-même. Est-ce que j'ai de la difficulté lorsque je me retrouve sur la place publique, dans un festival, à apprécier la beauté de l'humanité sainement? Est-ce que j'ai de la difficulté avec ça? Le test, c'est pas « oh, je suis pas saint ». Le test, c'est où est mon amour pour Dieu, puis où est mon amour pour les gens. Parce que ces belles jeunes filles-là, que mon vieil homme aurait le goût de croquer toute la gang, ont besoin de mes prières, ont besoin de mon attention, ont besoin que je sois là pour les aimer en Jésus-Christ, pour prier pour elles, pour prier pour ces gens-là. Je veux aimer les gens autour de moi comme Christ les a aimés. Lorsque je suis à la maison, puis on me demande encore de faire des sacrifices, on me demande encore de donner, les gens ne me comprennent pas. Si mon moyen de réussir à bien faire les choses, c'est de dire, « Ah oui, c'est vrai, Christ est mort sur la croix pour moi. OK, il faut que je me donne, il faut que je sois un témoignage. » Voyez-vous, je m'en vais sur le côté légaliste. Oui, c'est pas mal obscur comme milieu. Mais si ce que je me rappelle, c'est que j'aime Dieu, et que j'aime les gens autour de moi, et je veux qu'ils voient dans ma vie, dans mon cœur, dans mes attitudes, mon amour pour eux. Tu as de la difficulté à marcher dans la sainteté, c'est ton amour pour Dieu qui pose un problème. Tu as de la difficulté à être différent tout en aimant les gens, ton réflexe est soit de te fondre totalement dans la masse, soit de t'isoler complètement, c'est par manque d'amour pour les gens. C'est un manque d'amour profond pour mes amis non chrétiens, pour moi de leur être totalement identique, de rire à tout moment sur les mêmes jokes, d'avoir les mêmes sujets sans jamais être capable de les élever un peu, c'est un manque d'amour profond de ma part. Ah, je pourrais aborder ça en disant j'ai peur des hommes, tout ça. Je comprends, puis je peux aller dans des passages pour ça. Mais fondamentalement, notre motivation pour marcher dans la sainteté, c'est notre amour pour Dieu et c'est notre amour pour les gens. Et dans la mesure où dans mon cœur, je suis toujours en train de chercher à ranimer cette flamme de mon amour pour Dieu et de mon amour pour les gens, dans la mesure où je me rappelle que j'ai été envoyé pour faire connaître cet amour-là au monde autour de moi, dans la mesure où je prends du temps dans la parole de Dieu, je prends du temps dans la parole de Dieu pour laisser Dieu aiguiser mon discernement, laisser son esprit me parler et que je réponds lorsque l'esprit me parle. Je n'ai pas besoin d'un, d'une série de règles, d'une série de lois qui me disent bien, mal, gauche, droite, vire ici, fais ça, fais pas ça. J'ai plus besoin de ça. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai sa parole et mon motif, c'est mon amour pour Dieu, mon amour pour les gens. Je réalise que j'ai été envoyé par Dieu. Je me sanctifie. Je laisse Dieu me sanctifier par sa parole. Et je suis motivé pour les bonnes raisons, parce que j'aime les gens. Et Jésus nous dit, maintenant je vous envoie dans le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous envoie dans le monde pour que vous brilliez. Et cette semaine, cet été, maintenant, aujourd'hui, brillez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller au milieu du monde. On n'a pas besoin de se cacher, d'avoir peur. Celui qui est en moi est plus fort. Il a vaincu le monde. Les chrétiens ne sont pas appelés à trembler parmi le monde. On est appelés à être là au milieu du monde. « Oh, mais c'était Jésus, lui était spécial. Il est en toi, bonhomme. Arrête. Arrête. Laisse-le vivre en toi. Il fait connaître l'évangile de Jésus-Christ. » On va prier ensemble. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. On va prendre un temps de louange. Éternel notre Dieu, la série sur la sainteté a été courte, Seigneur, et pourtant c'est certainement, Seigneur, la qualité qui te définit le mieux. Emmanuel, Dieu parmi nous, c'est Dieu qui est près de nous, mais tu demeures Dieu. Tu demeures Dieu, tu demeures à mon intelligence, à ma compréhension insaisissable, Seigneur. Au-delà, incomparable, Seigneur. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Et je ne suis pas digne d'entrer dans ta présence, Seigneur. Par moi-même, Seigneur, je dis malheur à moi. Malheur à moi, car je suis un homme impur qui vit au milieu d'une nation impure qui ne connaît pas le Dieu très saint. Mais dans ta grâce, Seigneur, dans ta bonté, tu es venu vers nous, Seigneur, parce que tu aimes les êtres humains, ces créatures merveilleuses que tu as fait à ton image et tu nous as donné ton précieux Fils en qui tu avais placé toute ton affection. Tu l'as livré aux hommes et il s'est livré aux hommes pour être cloué, crucifié, pendu sur ce bois. Lui, le saint, le juste, celui qui n'était pas coupable, a été pendu au bois. Et son sang a été versé afin que les pécheurs comme nous puissent être pardonnés, purifiés, lavés par son sacrifice. Parce qu'aucun sacrifice de ma part, Seigneur, ne saurait me laver parfaitement. Et toi, tu l'as fait, Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Tu es venu à nous, Seigneur, et tu nous as rachetés par ce simple acte de foi de notre part. Ô, sois béni, Seigneur, ô, sois béni. Et tu as fait de nous un peuple nouveau. Tu as placé ton esprit en nous, non pas des êtres religieux attachés à toutes sortes de lois, mais profondément attachés à ta loi, à ta parole, afin de laisser Christ former en nous cette loi de Christ par son esprit, aiguisant notre discernement de jour en jour par ta parole, Seigneur. Et tu nous as envoyés dans ce monde afin de donner de la saveur à ce monde étourdi qui a oublié le Dieu très saint, et lui faire connaître par notre amour pour toi et pour lui, leur faire connaître que nous sommes fils et filles du Père céleste, frères et sœurs de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous ici ce matin qui ont abandonné cette poursuite de la sainteté. Déçus par eux-mêmes, brisés par leurs propres péchés, ils ont cessé de se repentir pour se relever. Cessez de regarder à ta croix pour accepter ton pardon et marcher dans tes voies par ta puissance. Relève-les, Seigneur, je t'en prie, par ton esprit. Parce que c'est toi qui accordes la repentance, Seigneur. Relève-les ce matin, Seigneur. Aide-les à embrasser par la foi, Seigneur, ces décisions qu'ils ont à prendre pour marcher dans la sainteté. Tu leur as parlé par ton esprit, non par un homme, non par des lois humaines, mais par ta parole et par ton esprit. Saisis-les, je te prie, Seigneur. Et ceux qui ont oublié qu'ils avaient été envoyés dans leur foyer, dans leur maison, dans leur milieu de travail, envoyés pour briller, pour donner cette saveur, Seigneur. Rappelle-leur qui ils sont en Jésus-Christ. Et Seigneur, que ta parole habite richement parmi nous, dans nos foyers, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans cette belle assemblée. Car tu es saint, Seigneur. Amen.